I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的
牧民南家正忙着切记办公室。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Clément Salazar, mais aussi Tiffaine de Roquigny, Xavier Martinet, Hélène Paquet, réalisée par Perret Legras et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Cette semaine, Culture Monde est en partenariat avec le festival Futur en Scène, le plus grand rendez-vous européen de l'innovation, gratuit et ouvert à tous. Un événement où se retrouvent les forces vives de la création et de l'innovation, des conférences, des ateliers, des rencontres, une immersion dans l'univers du numérique qui se déroule du 9 au 12 juin. Vous pouvez retrouver évidemment tout le programme sur le site www.futurenscène.paris. L'innovation sera le maître mot justement de notre série. La culture du do-it-yourself, impact du numérique sur le travail, encore intelligence artificielle, mais ce matin, c'est au berceau de la high-tech qu'on va s'intéresser, de la Silicon Valley à la Silicon Wadi, ces terres où naissent les clusters, des territoires qui sont très attentifs à l'action des politiques et qui en attendent beaucoup d'ailleurs, en particulier en cette période de campagne du côté des États-Unis.
Ce que la communauté de la technologie souhaite comme président, c'est quelqu'un qui, du point de vue politique, fasse le mariage entre la technologie, l'offre, ce que veulent les consommateurs et ce dont les créateurs de contenu ont besoin.
Nous avons besoin d'un bon président. Nous avons besoin de quelqu'un qui unifie. Et idéalement, nous avons besoin de quelqu'un qui soit pour la science et pour le libre-échange.
Ce dont le monde a besoin, généralement, c'est de quelqu'un qui n'adhère pas à des dogmes dépassés, quelqu'un qui cherche la bonne solution à partir des connaissances du terrain.
Je pense que beaucoup de gens du domaine de la technologie pourraient être présidents, et je serais surpris si dans les 50 prochaines années, personne de ce domaine ne se présentait.
Quelqu'un comme Bill Gates pourrait faire un président formidable. Les PDG ont les mêmes qualifications que les présidents. Ils ont peut-être même plus d'impact en restant directeur dans le secteur privé pour les 10, 15, 20 prochaines années qu'en étant 4 ou 8 ans à la Maison Blanche.
Et oui, la Silicon Valley attend beaucoup de celui ou celle qui sera le prochain président des États-Unis. Une Silicon Valley particulièrement au cœur des préoccupations pour ses candidats, puisque la Californie votera dans quelques heures pour les primaires. Alors si du côté républicain, les choses sont jouées, du côté démocrate, Bernie Sanders ne s'avoue pas vaincu face à sa rivale Hillary Clinton. La Silicon Valley est toujours évidemment une préoccupation pour les responsables politiques américains, mais plus encore en ce moment, puisque cet écosystème ne se porte pas si bien que ça. En effet, d'après plusieurs cabinets d'études, les investissements y seraient en perte de vitesse, les startups retarderaient leur arrivée sur le marché et les capital risqueurs seraient moins intrépides. Selon une note du cabinet PricewaterhouseCoopers, le montant des investissements dans le capital risque aurait chuté même de près de 15% au premier trimestre 2016 par rapport à l'année précédente. Alors recul conjoncturel ou ambiance de fin de règne pour ce cluster qui a fait de multiples héritiers aux quatre coins du globe, est-ce qu'on assiste à un crépuscule d'un modèle qui porte le développement économique et social des territoires? L'État peut-il, va-t-il venir à la rescousse de la Silicon Valley? Et puis, plus généralement, quel est le terreau favorable à l'émergence et le succès d'un cluster? Quel rôle joue le territoire d'implantation? Quelle politique publique en termes d'aménagement du territoire, d'éducation, en termes industriels? Est-ce qu'on peut transposer le modèle de la Silicon Valley? Dans quelle mesure les hubs technologiques russes, israéliens, allemands, indiens ou même français s'en sont inspirés? Voilà les questions qui vont nous intéresser ce matin avec deux invités avec nous en plateau. D'abord Martine Azuelos, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure émérite à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous êtes fondatrice du Centre d'études sur la vie économique des pays anglo-saxons. Et puis à vos côtés, Daniel Rouache, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, professeur à l'ESCP Europe. Vous êtes enseignant à l'université de Tel Aviv. On parlera avec vous justement de ce qui constitue finalement le deuxième technopole du monde après la Silicon Valley. Et puis vous êtes également le président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France à Tel Aviv. Alors on va pas commencer avec Israël, on va commencer avec les États-Unis, avec vous Martine Azuelos. Visiblement, la Silicon Valley se porte assez mal. Et parmi les indicateurs les plus fiables, croyez-moi, c'est les ventes de tables de ping-pong qui sont à la baisse. Au cours du premier trimestre de 2016, les commandes de tables de ping-pong ont chuté de 50% par rapport au trimestre précédent dans l'un des principaux magasins de San Francisco. C'est l'un des symboles de la culture d'entreprise de ces startups qui est donc touché. C'est très sérieux hein, parce que le Wall Street Journal publiait un édito sur ce sujet le mois dernier. Et visiblement, C'est pas totalement loufoque, puisque après un pic en 2015, les fonds levés par les jeunes pousses américaines reculent pour le troisième trimestre d'affilée. C'est la crise, Martín Azuelos, à la Silicon Valley. On est moins enclin à prendre des risques financiers, visiblement.
Ben, on est peut-être moins enclin, effectivement, à prendre des risques financiers. Ça peut être, il est sans doute un peu trop tôt encore pour déterminer si ce phénomène qui dure depuis effectivement quelques mois va se poursuivre. En tout cas, ce que l'on peut dire, si on remet les choses un petit peu en perspective, c'est que la Silicon Valley, qui est apparue comme un modèle, hein, le modèle et le prototype par excellence du système d'innovation américain, a été malmené depuis d'abord au moment de plusieurs crises, la crise Internet du début des années 2000, bien sûr la crise financière. Aujourd'hui, on voit encore qu'il souffre, mais que malgré tout, il a toujours réussi à ressurgir de ses cendres.
D'accord, donc ça, c'est pour vous, c'est plutôt possible. Une crise passagère, une crise conjoncturelle. Il n'y a pas aussi derrière des failles structurelles?
Alors, ça pourrait être ça. J'ai commencé par l'interprétation optimiste. L'interprétation pessimiste est celle qui a été aussi soulevée par de nombreux auteurs depuis un certain temps, c'est que finalement ce prototype, ce modèle, il a été copié. Il a été copié au sein des États-Unis, à l'étranger, et qu'il souffre peut-être de la concurrence de prototypes rivaux qui se seraient développés sur d'autres territoires.
Notamment en Asie, évidemment. Voilà. Alors, voyons ce que les politiques ont fait pour justement développer cette innovation aux États-Unis. Septembre 2009, Obama lance un grand plan qu'il avait baptisé Strategy for American Innovation. Il y présentait les efforts du gouvernement pour que le pays, justement, puisse continuer à mener l'économie la plus novatrice du monde et de mettre en valeur, évidemment, l'industrie de demain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les grands principes de son plan et peut-être faire une forme de bilan aujourd'hui? Il va bientôt quitter la Maison Blanche.
Oui, alors, ce plan qui a été lancé en septembre 2009, là aussi, il faut le replacer dans le contexte de la crise financière et de la crise économique dans laquelle les États-Unis étaient plongés. Et avant septembre, il y a eu en février 2009, c'est-à-dire juste après l'entrée d'Obama à la Maison Blanche, l'adoption par le Congrès du plan ARA, American Recovery and Reinvestment Act, donc un plan de sauvetage de l'économie américaine qui passait par un réinvestissement. Réinvestissement massif dans les domaines identifiés comme des domaines porteurs pour l'avenir, comme celui de l'innovation. Donc là, il y a eu effectivement un plan de financement massif qui s'est concrétisé au fil des mois et des années futures, enfin futures à l'époque et passées aujourd'hui, qui s'est décliné de différentes façons, c'est-à-dire qu'il y a des soutiens directs à certains programmes, comme par exemple le programme de l'énergie, des énergies innovantes. Ça, c'était un des grands...
Ouais, l'efficacité énergétique, c'était au cœur de
ce projet. Ce plan, ouais. La recherche scientifique, la recherche médicale. Donc ça, c'était des projets, deux exemples de projets qui ont été vraiment ciblés par l'administration Obama comme devant devenir des préoccupations nationales.
Il y avait aussi la recherche sur le cerveau, il y avait aussi les véhicules autonomes, voilà. Un certain nombre de choses.
Ouais. Voilà, donc ça, c'est des projets particuliers. Par ailleurs, un volet fiscal, c'est-à-dire des mesures pouvant bénéficier aux entreprises innovantes, hein, donc des crédits d'impôt, voilà. Une augmentation aussi voulu par l'administration Obama de financement à la recherche universitaire, sachant que l'administration fédérale ne représente que 15% du budget de la recherche universitaire aux États-Unis. Donc même si il y avait une volonté d'intervenir, elle est de toute façon relativement modeste. Alors voilà, donc ça c'était les projets initiaux. Évidemment tout ça coûte de l'argent. Et ces initiatives d'Obama se sont assez vite heurtées À l'arrivée d'une majorité républicaine au Congrès à partir de 2011 et à la volonté affichée par cette majorité républicaine
de réduire les dépenses.
De réduire le déficit, réduire les dépenses. Donc l'administration Obama n'est certainement pas allée aussi loin qu'elle laisse compter en 2009 lorsque le programme a été annoncé.
Par ailleurs, il y a quand même des choses qui ont été faites et ça nous permet aussi de mesurer comment est-ce qu'on s'y prend aux États-Unis. Regardons, printemps dernier par exemple, Barack Obama se déplace dans l'Ohio pour lancer un appel à projet en vue de la création d'un institut d'innovation industrielle consacré au textile. Depuis plusieurs années, on sait, l'industrie du textile va mal, et en particulier aux États-Unis, mais on ne se résigne pas, on essaye de relancer l'économie en se plaçant vraiment à la pointe. Donc on a un appel à projet, on recherche à développer finalement des textiles avec des techniques innovantes, des fibres révolutionnaires, on fait cet appel à projet qui, par ailleurs, est piloté par le département de la Défense, avec un institut qui va être doté de 75 millions de dollars de crédits fédéraux et autant de crédits privés, a priori. Donc ça, c'est parfaitement représentatif de la politique publique aux États-Unis. On vise l'excellence, on injecte des crédits publics et on demande aux privés de faire autant. Ça, c'est le schéma classique.
C'est le schéma classique, vous avez raison. Donc il n'y a pas, de, me semble-t-il, d'innovation radicale dans la manière de procéder de l'administration Obama. Et d'ailleurs, vous évoquiez tout à l'heure dans votre introduction la notion de rupture. Est-ce que l'administration Obama représenterait une rupture avec les administrations précédentes? On oppose souvent républicains-démocrates, puisqu'on est dans la campagne électorale. Ce qui était intéressant dans les interviews que vous avez diffusées tout à l'heure, j'ai noté, c'est que, au fond, quelqu'un disait ce qu'il nous faut, ça devait être un entrepreneur, ce qu'il nous faut,
c'était le cas.
C'était un président qui est convaincu de l'importance de la science et de la technologie. J'ai noté ça. Donc, au fond, ce qui intéresse les milieux économiques dans ce domaine, c'est pas la filiation partisane du président, mais au fond, qu'il soit bien convaincu que la science et la technologie, c'est important pour la croissance présente, future. Et au fond, si on revient sur ce qui s'est passé aux États-Unis, au fond, depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on remarque une véritable continuité, même si les projets ont, bien entendu, changé, évolué. Vous mentionniez que ce plan de relance du textile dans l'Ohio serait donc intégré d'une certaine façon au département de la Défense. Et il est vrai que dans la période d'après-guerre, le département de la Défense, la DARPA, a joué un rôle majeur dans l'innovation. C'est-à-dire qu'il y avait ce fameux complexe militaro-industriel là qui a joué de façon continue depuis cette date, depuis 1958, la création.
On va revenir évidemment sur cette perspective historique. Encore un mot, est-ce que justement les candidats qui sont aujourd'hui toujours en lice, donc d'un côté Trump et de l'autre côté Hillary Clinton et Bernie Sanders, est-ce qu'il vous semble justement convaincu que l'innovation passe par la science? Est-ce que finalement ce sont des candidats qui apportent satisfaction aujourd'hui aux écosystèmes qu'on retrouve à la Silicon Valley?
Alors, en ce qui concerne Trump, je commencerai par lui parce que c'est sans doute la question la plus facile à résoudre. Comme il dit tout et son contraire, il sera facile de trouver dans ses déclarations des déclarations qui vont dans un sens comme dans l'autre. Comme il est actuellement en train de faire campagne en Californie, bien entendu, on peut s'attendre à ce qu'il mette l'accent sur cette question. En ce qui concerne Sanders et Clinton, effectivement, le contexte aussi veut qu'étant en Californie, ils vont peut-être plus qu'encore pendant l'ensemble de la campagne mettre l'accent sur cette question. D'une façon générale, enfin vous allez peut-être me contredire parce que vous allez avoir trouvé des choses plus précises que celles que j'aurais à dire sur la question, mais il ne m'a pas semblé que la science et la technologie occupent le devant de la scène dans la campagne électorale.
Et s'agissant de Hillary Clinton et Bernie Sanders?
Eh bien, pour elle comme pour lui, je pense qu'ils s'inscrivent dans ce domaine, dans la continuité de ce qu'a fait Obama. Ce sont des démocrates, ils s'inscrivent dans la continuité de ces projets, notamment de tout ce qui a été fait autour de l'énergie, les énergies renouvelables, qui sont, cette économie verte finalement, qui est une source croissante croissance potentielle pour le pays, mais aussi, et là c'est en ce sens que l'initiative dans l'Ohio pour le textile est intéressante, de montrer que même dans les secteurs considérés comme des vieux secteurs industriels, hein, le textile en est vraiment un exemple, dans lesquels les États-Unis se sont complètement désindustrialisés depuis des décennies, il y a des choses à faire. Et là, l'innovation est source de création d'emplois. C'est par ce biais de la création d'emplois. Et là, je pense que l'Ohio n'a pas été choisi n'importe comment.
Et ça semble fonctionner. Alors évidemment, pour l'instant, c'est très, très timide. Mais quand on regarde effectivement le nombre d'emplois dans ce secteur-là aux États-Unis, il est en train d'augmenter. Alors, un tout petit peu, évidemment. On a beaucoup perdu ces dernières années, mais on sent qu'il y a un mouvement qui est en train de s'inverser. On va prendre un peu de distance et revenir sur finalement l'histoire de cette Silicon Valley. Mais Daniel Roy, je voudrais avoir votre regard peut-être à la fois sur ce bilan d'une certaine manière de Barack Obama dans la Silicon Valley. Comment est-ce que vous voyez les choses depuis Tel Aviv? Et puis aussi en se projetant vers l'avenir, puisqu'on a quand même une présidentielle qui va arriver dans quelques mois. Comment est-ce qu'on voit depuis Israël justement les stratégies des uns et des autres pour favoriser l'innovation aux États-Unis? C'est toujours un modèle.
Alors, effectivement, la Silicon Valley pour les Israéliens est un modèle, mais en Israël, on est extrêmement optimiste, c'est un fait. Donc, quand on voit la Silicon Valley, on voit plus, si vous voulez, les technologies qui avaient été inventées, réinventées dans l'Internet, la robotique et autres. La Silicon Valley est devenue une sorte de moteur de création de start-up et création de modèles. Donc, on a de plus en plus de gens qui... sont vraiment experts dans la création de start-up qui font, une fois qu'ils ont créé une start-up, ils en recréent une deuxième, une troisième, etc. Et la qualité majeure de la Silicon Valley, c'est de créer des courbes de vie nouvelles, de nouvelles technologies, de nouveaux savoir-faire. En Israël, au départ, on avait une sorte de copier-coller de ce qui se passait à San Francisco et dans la Silicon Valley. Israël, depuis fort longtemps, a dépassé le modèle. Et je dirais que l'étudiant devient meilleur que le professeur, dans la mesure où les Israéliens ont une faculté assez exceptionnelle, parce que c'est l'environnement qui les pousse à avoir une agilité incroyable dans la création de start-up, et également une frugalité de comportement. C'est vraiment l'innovation frugale. Avec trois fois moins, ils font trois fois plus. Donc Israël est un modèle très très particulier parce que les technologies qui sont issues du monde militaire, de Tsahal, ont été transférées dans le domaine civil. On a des industries nouvelles qui ont émergé comme par exemple l'industrie médicale. Auparavant, par exemple, les drones, les avions sans pilote. Nous avons maintenant des dizaines d'entreprises qui sont autour des drones pour inventer des nouveaux développements. Et là où Israël ne peut pas ne pas gagner, c'est d'avoir pénétré le domaine de la cybertech depuis des années, puisque Israël est confronté en permanence à des attaques sur Internet. Donc il y a des sociétés qui ont émergé comme Checkpoint et autres qui font que ce pays est aujourd'hui dans une courbe dans laquelle la demande est énorme, énorme dans le domaine de la cybersécurité, et Israël est impliqué dans ce secteur.
Alors, on va essayer de comprendre justement un peu plus en profondeur dans un instant avec vous, Daniel Roach, le modèle israélien. Mais on revient un tout petit peu en arrière, on reste sur la Silicon Valley. Et finalement, pourquoi est-ce que ce technopole s'est installé ici? Bah, c'est aussi parce qu'un homme en a décidé ainsi, c'est cet homme-là.
Somewhat of an exaggeration, because this wasn't built up by any one person or even one or two or three people.
C'est une exagération, car cela n'a pas été construit par une seule personne ou même par deux ou trois personnes. Mais nous avions les ingrédients avant la Seconde Guerre mondiale de quelques entreprises dans la région, créatives, indépendantes et gérées par leurs créateurs. Des petites entreprises, mais elles travaillaient sur leurs propres idées. Et ce sont les gens qui avaient les idées qui les dirigeaient, de bonnes personnes. Et cela a servi de base. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses ont commencé à s'accélérer, à devenir plus actives et à inclure de plus en plus de gens. J'étais à l'université et je m'intéressais depuis toujours à ces petites compagnies. Nous avons donc travaillé avec elles pour s'entraider, à se développer et à grandir. Je dirais que les universités ont joué un rôle important dans le développement ici, mais aussi que les entreprises ont joué un rôle majeur dans le développement de ces universités qui ont contribué au développement économique. Nous avons donc grandi ensemble et ça s'est avéré une bonne chose.
Frédéric Terman, un ingénieur, professeur à la chaire d'électronique de Stanford, c'est son obsession, Interman, c'était d'encourager Martin Azuelo, ses élèves, à monter leur entreprise dès qu'ils finissaient leurs études. Et c'est lui, par exemple, qui a convaincu deux de ses élèves, Bill Hewlett et David Packard, à créer leur entreprise sur place. Ils vont avoir évidemment le succès qu'on sait. Beaucoup d'autres entreprises vont les suivre. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes là-dedans. C'est d'abord que l'une des leçons qu'on peut tirer de ce succès de la Silicon Valley, c'est que c'est aussi le résultat de volonté individuelle, pas seulement le résultat d'une politique publique. La géographie du premier technopôle, elle a été définie par des intérêts privés, par des intérêts individuels. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voudrais vous entendre aussi, c'est que faut pas sous-estimer la force de ces petites histoires, de ces succès comme HP, parce que ça participe évidemment du mythe de la Silicon Valley et ça continue d'être un des éléments de son succès, Martin Azuelo.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Alors, cette volonté individuelle, Frederick Thurman en parlait bien, le rôle des entreprises, le rôle de l'université et le rôle des pouvoirs publics dont nous avons déjà parlé et la question du pourquoi la Silicon Valley. Alors là, en ce qui concerne la création de HP, c'était en 1939. Le démarrage de la Silicon Valley, c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale. Et le contexte là, il est important parce que c'est l'époque où, d'une part, le gouvernement fédéral dépense par le biais du département de la défense beaucoup d'argent pour stimuler la recherche scientifique. Et d'autre part, il y a aussi bon nombre de centres de recherche qui sont créés dans l'Ouest américain, et en particulier en Californie, parce que c'est plus loin de la côte atlantique qui représente, aux yeux du ministère de la Défense, un danger plus imminent que le Pacifique. Donc, là, il y a ce contexte. Alors, après, ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'il y a une synergie qui se crée entre, d'une part, un terreau entrepreneurial, l'université, et d'autre part, les pouvoirs publics qui sont bien sûr l'État fédéral, mais aussi les États fédérés. Et il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, les États fédérés jouent un rôle très important dans le financement de la recherche et qu'eux aussi peuvent financer des centres, soit directement par des appels d'offres, soit bien sûr en finançant l'enseignement supérieur, puisque, comme je l'indiquais tout à l'heure, seulement les dépenses, l'enseignement supérieur est financé à seulement 15% par l'État fédéral. Le reste, c'est soit les États, soit les fonds privés, bien sûr.
Oui, il y a plusieurs canaux par lesquels arrivent des subventions publiques, soit l'État fédéral, soit les États. Et évidemment, si Frederick Thurman est parvenu à convaincre les entreprises de s'installer dans cette zone, c'est aussi parce que elle se retrouvait à proximité de l'université Stanford, avec tout le vivier potentiel, bien sûr, d'ingénieurs qu'elle constituait. Et ça, c'est évidemment une des clés du succès de la Silicon Valley, c'est cette articulation entre le monde industriel et le monde académique. Mais c'est pas seulement ça, parce que pour comprendre pourquoi les États-Unis ont permis l'émergence d'un tel technopole et plus largement d'être ce leader dans le domaine de l'économie du savoir, même s'il faudrait définir peut-être plus en profondeur ce concept, vous faites l'hypothèse dans un article que vous avez écrit, que j'ai lu, qu'il s'était doté, avant tous les autres pays, d'institutions qui répondaient à trois objectifs. Protéger la propriété intellectuelle et industrielle, faciliter la production et la diffusion des savoirs et faciliter les processus d'apprentissage. Voilà finalement les clés du succès.
Succès américain.
Du
succès des États-Unis. Et bien entendu, ça n'est pas un hasard si la Silicon Valley a éclos à ce moment-là. C'est aussi le résultat d'une histoire. Une histoire d'un pays dont la constitution, qui inscrit dans sa constitution, lorsqu'il se crée à la fin du 18e siècle, le principe de la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Ça n'est pas anodin. Et il y a eu vraiment ancré dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire des idées américaines, l'idée que la croissance économique allait être tirée par la science. par la science et par le développement scientifique. Donc voilà, donc se doter d'institutions, ben c'est se doter d'une institution comme la protection de la propriété intellectuelle et industrielle, le brevet, hein, qui est inscrit dans la Constitution des États-Unis, principe qui est inscrit dans la Constitution des États-Unis. Pendant tout le 19e siècle et encore le 20e siècle, les États-Unis vont aller dans la continuité de cette protection qui va finalement permettre de résoudre ce que les économistes appellent le dilemme de la connaissance qui tient à ce que pour la connaissance scientifique doit être un bien commun partagé par toute l'humanité, mais pour qu'elle se développe, il faut que ceux qui peuvent la développer aient un intérêt à la développer, d'où l'intérêt du brevet.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine autour de l'innovation, la fabrique du futur et aujourd'hui de la Silicon Valley à la Silicon Wadi, c'est terre où naissent les clusters avec Martinez Huelos et Daniel Roach. On va prendre tout de suite la direction d'Israël.
Israel is often called the startup nation. I call it the innovation nation.
Israël est parfois appelé la nation start-up. Je l'appelle la nation de l'innovation. Le futur appartient à ceux qui innovent. L'innovation est le seul moyen d'ajouter durablement de la valeur à vos biens et à vos services dans une économie mondialisée de plus en plus compétitive. Israël est un centre mondial pour l'innovation. Et par cela, j'entends deux choses. C'est d'abord un centre pour la science et la technologie, mais aussi pour les ingrédients indispensables à l'entrepreneuriat. La femme ou l'homme qui a une idée, parfois même un enfant, cette idée prend la science et la technologie pour transformer en un plan de travail qui peut apporter profit et croissance. Israël est donc actuellement l'épicentre de l'innovation mondiale.
Voilà, vous avez peut-être reconnu la voix du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. C'était en janvier 2014. Le futur appartient à ceux qui innovent. Daniel Roach, vous avez notamment écrit ce livre, Israël Valley, le bouclier technologique de l'innovation. Albert Einstein disait déjà dans les années 20, Israël ne pourra survivre qu'en développant la connaissance et la technologie. D'ailleurs, vous mettez en exergue de votre livre, presque un siècle plus tard, développer, investir dans la technologie, c'est resté une question de survie.
Oui, c'est une question de survie. Le livre Israël Valley a été écrit par moi-même et Edouard Kuckerman, qui est lui-même un venture capitaliste. Et ça nous a pris 7 ans hein, pour écrire ce livre. Et l'un des points les plus importants du livre, c'est le sous-titre, c'est le bouclier technologique de l'innovation. Israël est un pays qui croit à la science et à la technologie. Ce n'est pas du tout par hasard si on a proposé à Albert Einstein d'être le président de l'État d'Israël. Nous avons eu le président de l'Institut Weizmann, qui est un grand institut mondial, Ephraim Katzir, qui est devenu le président de l'État d'Israël, et que c'est pas du tout par hasard aussi, puisque vous parliez des États-Unis et de l'innovation, créativité, que au Technion de Haïfa, qui forme une très grande partie des ingénieurs israéliens de très haut rang, un des prix Nobel a pris son temps toutes les semaines, pendant une demi-journée, d'enseigner à plus de 300 étudiants le sens de l'entrepreneuriat. Il faisait des cours sur l'entrepreneuriat avec des invités. Donc en Israël, on a toujours pensé que la science et technologie étaient fondamentales pour la survie d'Israël, pour la continuité du pays. Et surtout, on a toujours pensé que la créativité et l'entrepreneuriat étaient un élément clé pour pouvoir s'en sortir de manière naturelle.
Et évidemment, cette idée que la défense du pays passe par le savoir, par l'innovation, par la technologie, elle est si prégnante qu'on la voit d'ailleurs transparaître dans la présence de l'armée israélienne dans le secteur de la technologie. L'impératif sécuritaire, il a fait que Tsahal aujourd'hui est devenu, alors pas le seul, mais l'un des moteurs de la R&D.
Alors, effectivement, Tsahal, en fait, c'est l'université, c'est une des grandes universités. Si, par exemple, Tel Aviv University a plus de 25 000 étudiants, ou l'université hébraïque de Jérusalem, ou le Technion, plus de 25 000, 30 000 étudiants. Dans l'armée israélienne, nous avons une unité qui s'appelle l'unité 8200, qui rassemble les meilleurs scientifiques d'Israël, les meilleurs technologues. C'est pas du tout par hasard que la cyber des sécurités est partie de l'armée. Mais Israël est devenu cette start-up nation parce que, dès le départ, on a pris les choses au sérieux en ce qui concerne la recherche et développement. Vous venez d'entendre Benjamin Netanyahou. Ça ne viendrait pas à l'esprit si, dans quelques mois ou dans quelques années, il termine son travail de Premier ministre. Le prochain Premier ministre ne baissera absolument pas les investissements énormes de recherche et développement du pays. Israël fait partie des 2-3 pays mondiaux dans lesquels l'investissement en recherche et développement est continuel. Et c'est pas uniquement lié à Tsahal et la défense, c'est une volonté naturelle.
Ce qui profite, entre guillemets, ce qui bénéficie à l'armée, bénéficie aussi au grand public. Il y a aussi cette idée en Israël qu'il faut favoriser le transfert des technologies du domaine militaire au domaine civil, vous l'avez dit. Mais au-delà du fait que l'armée, c'est un élément, disons, catalyseur pour la recherche et le développement, il y a aussi cette question du service militaire, qui est aussi quelque chose qui inculque cet esprit d'entreprise aux Israéliens. Vous l'expliquez dans votre livre. Peut-être que le fait d'être, évidemment, confronté à des enjeux sécuritaires pour lesquels des vies sont en jeu, plus tard, le risque financier, et seulement financier, peut-être être surmonté plus facilement, non ?
Oui, mais bon, si le livre a pris autant de temps à être écrit, Israël Valley, qui est d'ailleurs traduit actuellement en chinois, c'est devenu en l'espace de quelques mois un best-seller. C'est pas lié à Tsahal et à l'armée, pas du tout. C'est lié.
Non, je dis simplement que le service militaire inculque d'une certaine manière l'esprit d'entrepreneuriat.
Vous avez tout à fait raison. Voilà, c'est ça que aujourd'hui, je veux dire. Si vous voulez, le modèle s'est développé. Au départ, vous aviez des investissements massifs, vous avez un transfert de technologie du militaire au civil. Mais aujourd'hui, les grandes universités israéliennes sont devenues des moteurs de la création. On a six Stanford. Stanford a inventé un institut du transfert de technologie à Stanford. Aujourd'hui, vous n'avez pas une université israélienne qui n'est pas son institut de transfert de technologie. Donc, vous avez des chercheurs de très haut niveau qui également créent leur start-up poussée par une expertise exceptionnelle de ces instituts de transfert de technologie qui sont à la porte des universités. C'est exactement le cas de l'Institut
Weizmann. Voilà, 5 facultés, 17 départements, 50 centres de recherche multidisciplinaires. C'est quelque chose d'énorme.
Et un milliardaire qui s'appelle le professeur Revel, qui est un Français qui est parti de Strasbourg, qui habite Israël depuis des années, qui a inventé des technologies et des savoir-faire tout à fait nouveaux et qui a permis également aux Israéliens de développer d'autres savoir-faire autour de la société qui s'appelle Teva. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'Israël, aujourd'hui, est passé à un autre niveau. On est passé de la start-up nation à la recherche nation, R&D nation. Vous ne le savez pas, c'est un scoop. 50 millions de dollars viennent d'être versés, seront versés très prochainement à l'université de Tel Aviv. 50 millions de dollars, pas pour la recherche, mais pour l'Institut du Management. Les Israéliens savaient qu'il y avait un point faible, c'est la création de grandes multinationales. On sait très bien créer des recherches et des centres de recherche et développement. Les Israéliens ont travaillé de manière exceptionnelle avec les grands groupes mondiaux comme Facebook, Apple, Intel, Microsoft et Google. Mais maintenant, les Israéliens veulent passer à un autre stade, non seulement développer des centres de recherche et développement pour ces grands groupes industriels, mais avoir une autre capacité de recherche fondamentale qui permet de faire émerger d'autres technologies et d'autres savoir-faire qui seront créés par Israël. Vous avez dans le sud d'Israël une ville, si vous êtes de passage en Israël, elle est inévitable maintenant, ça s'appelle Be'er Sheva. Be'er Sheva, c'est, vous voyez, c'est la pluie, c'est dans le désert. Auparavant, il y a X années, il y a 30 ans, Be'er Sheva, c'était un désert, c'était du sable.
Aujourd'hui, et dans le Negev. Voilà. Et le Figaro nous disait il y a quelques mois, Be'er Sheva, la future cybercapitale d'Israël.
Voilà. Alors, c'est le dream, le rêve israélien, c'est la nouvelle conquête, c'est la conquête de l'Ouest de l'époque américaine, dans lequel, dans un désert, mais un vrai désert, c'est pas de la propagande. Vous avez des immeubles qui sont en train de se créer. Le gouvernement israélien est en train de déplacer ces grandes unités qui étaient dans la région de Tel Aviv, Herzliya et ailleurs, viennent maintenant à Be'er Sheva. Et vous allez voir, dans quelques années, non seulement il y aura un désert qui sera habité par des chercheurs, mais également Israël a l'intention de créer un lac. Parce que vous le savez, on ne peut pas créer une Silicon Valley si c'est pas beau. Et les Israéliens sont conscients que la beauté du lieu où on s'installe doit créer une inspiration exceptionnelle. C'est pas par hasard qu'on a des campus qui sont merveilleux avec des arbres, de l'herbe et des odeurs magnifiques.
Alors, on aura peut-être demain un nouveau technopole, donc au sud de Tel Aviv. Mais pour l'instant, on a cette Silicon Wadi qui est au nord de Tel Aviv sur la côte israélienne avec cette très forte concentration de haute technologie. On disait le deuxième écosystème d'innovation au monde, peut-être même le premier, dites-vous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, Daniel Roache, quand et comment s'est développé ce technopôle et quel a été peut-être aussi le rôle de l'État, des politiques publiques dans tout ça?
Alors, il y a eu d'abord des gens qui ont inspiré. Quelques personnalités. Il y a Steve Wertheimer qui, pas très loin de Haïfa, dans le Nord, a décidé de créer un parc technologique et scientifique. On a une famille, la famille Zisapel, Zohar Zisapel et son frère, ont créé des entreprises. Ce sont des gens qui ont été des hommes et des femmes, et il y en a beaucoup en Israël, qui ont inspiré un modèle. Mais Israël, c'est un modèle d'université de haut niveau. C'est le soutien du gouvernement qui est permanent, c'est pas avec des ruptures. C'est véritablement le choix de certains développements technologiques. Pas du tout par hasard, si les Israéliens, dans quelques années, seront leaders mondiaux dans le domaine de la science du cerveau, les technologies du cerveau et dans le domaine de la robotique. Vous avez bien entendu Tsahal, l'armée israélienne, et vous avez un ingrédient majeur qui a été créé par l'État israélien et qui maintenant est devenu une arme majeure pour les Israéliens. C'est le capital risque. Quand vous créez votre entreprise, vous êtes en phase d'amorçage. Faites-le en France. Vous voulez créer votre entreprise. Eh bien, on vous dit avec des affiches magnifiques de grandes banques françaises, nous allons vous aider. Allez avec un dossier, vous verrez le résultat. Oui, en Israël, c'est pas le cas. Vous avez des sociétés de capital risque et je me suis baladé, juste, vous parliez de l'Institut Weizmann. Moi, j'ai vu des gars en costume, cravate. On porte jamais de cravate en Israël, on porte jamais de costume. Ils arrivent avec des mallettes et ils tournent dans les étages des incubateurs face à l'Institut Weizmann et demandent: avez-vous besoin d'argent? Où est-ce que vous avez ce cas-là? Ça n'existe pas.
Peut-être qu'il y a un homme aussi, parce qu'il faut parler de figure. Il y a un homme qui incarne très bien aussi tout ça et qui a participé à cette grande histoire. C'est Yossi Vardi. Quasiment, dit-on en Israël, le pape de l'innovation israélienne, l'ambassadeur de l'Israël Valley. C'est un homme qui a créé ou soutenu dans sa vie quasiment une centaine, je crois, de sociétés de haute technologie. Et lui, il incarne parfaitement cette culture entrepreneuriale qu'on retrouve en Israël. Et puis, cette facilité, d'une certaine manière, à obtenir des crédits aussi.
Alors, c'est exact pour Yossi Vardi, qui est l'une des personnalités clés. Mais Israël a une chance inouïe, c'est d'avoir beaucoup de Ben Gurion des technologies et du savoir-faire. Moi, je suis très proche d'un homme qui s'appelle Zohar Zisapel. Il vient tous les matins avec des petites sandales et un short. Sauf que dans son bureau, j'ai vu des choses magnifiques, des pièces d'art, de monnaie, des choses extraordinaires. Sauf que ce monsieur, tous les matins, arrive. Il a créé plus de 110 sociétés. Il est focalisé sur le cybertech et il est devenu le père de beaucoup de startups. La dernière startup s'appelle Adalom. Je l'ai vu émerger. Un tout petit truc avec 5 personnes. Aujourd'hui, c'est une société qui a ramené des centaines de millions de dollars aux créateurs. Donc, on a des figures emblématiques en Israël. Israël est un pays dans lequel, quand on crée une startup, on va en créer une deuxième. Donc on a des personnalités qui ont émergé et qui sont d'une générosité incroyable. Vous les voyez investir du temps et du temps à très forte valeur ajoutée. Et même les sociétés de venture capital qui sont américaines, qui viennent s'installer en Israël, vous voyez des gars qui normalement aux États-Unis courent comme des malades. En Israël, ils s'assoient, ils sourient, ils vont au soleil et ils aident des startups. Vous croyez que c'est une image comme ça? Moi, j'ai un fils, il s'appelle Jonathan. Il a créé une société dans le domaine des bitcoins. C'est l'un des domaines les plus dangereux quand vous créez votre startup. Je le vois créer avec des amis une Bitcoin Embassy, l'ambassade des Bitcoins. Maintenant, il est rentré dans le blockchain. En l'espace de 3 ans, c'est absolument fulgurant. Ils étaient à Zurich, 15 Israéliens, pour présenter ce nouveau domaine de finance et technologie. Vous avez une vitesse de développement, mais cette vitesse de développement ne vient pas par hasard. Vous avez un environnement social de gens qui vous aident, qui vous donnent des conseils, qui vous protègent. Et les familles israéliennes, c'est également un point très important, font ce qu'on appelle le love money. On donne de l'argent à des jeunes start-upistes en leur disant voilà, je te donne 100 000 euros, 200 000, 300 000, fais ce que tu peux, on te laisse avancer. Et souvent, vous les retrouvez dans ces fameux incubateurs qui sont un véritable modèle.
Daniel Roche, il y a aussi peut-être un élément qu'il faut rappeler quand on parle d'histoire et qu'on veut comprendre l'émergence de tout ça aussi. Il faut évoquer aussi la question de l'éclatement de l'URSS qui a fait évidemment que de nombreux scientifiques sont partis un petit peu partout dans le monde et notamment en Israël. Et là, la force, c'est vrai, du gouvernement israélien à l'époque, ça a été justement de créer des incubateurs pour les accueillir. Ça a été important dans l'histoire du développement de ces technopoles.
C'est tout à fait exact, Mais il y a quelque chose de nouveau qui se crée actuellement. Beaucoup de juifs français quittent la France. Il y a quelques années, dans les années 80, quand je suis allé en Israël, j'ai fait mon alia, il y avait 2 polytechniciens en Israël français. Aujourd'hui, sans trop exagérer, vous avez des dizaines de jeunes de l'école polytechnique qui sont arrivés en Israël. Vous avez une alia de qualité en Israël. C'est-à-dire, si les Russes, en leur temps, dans les années 90, ont transféré des savoir-faire dans le domaine des mathématiques et autres, vous avez aujourd'hui également des jeunes Français qui sont en train d'apporter des savoir-faire extraordinaires avec quelque chose qui est très important. Les jeunes Français qui émigrent en Israël et qui permettent la réémergence de savoir-faire israélien ne se déconnecte pas de la France. Mmh. Quand Emmanuel Macron était en Israël, la première chose qui a été faite, et plus tard Manuel Valls, on fait en sorte de rencontrer ces jeunes Français qui peuvent tisser des liens avec la France et ne pas quitter tout ce savoir-faire français.
Alors, il y a beaucoup de choses extrêmement positives dans tout ce que vous nous racontez, Daniel Roache, et on s'en réjouit. Et en même temps, il y a aussi des inquiétudes du côté d'Israël. Je parlais de la crise du côté de la Silicon Valley avec Martine Azuelos. Il y a aussi quelque chose qui inquiète du côté d'Israël, c'est qu'on a de plus en plus de start-up israéliennes qui sont rachetées par des entreprises étrangères. Alors, vous pouvez nous expliquer en quelques mots pour quelles raisons, et est-ce que c'est quelque chose qui, chez vous, suscite l'inquiétude également? C'est une question qui fait beaucoup de débats.
Attendez, votre question, c'est une très très bonne question. C'est Florian Delorme, vous posez la bonne question. Sauf qu'Israël a trouvé... Oui, mais vraiment, vraiment, vous posez la bonne question parce que c'est l'angoisse en Israël. Mais en fait, moi je vous donne ma réponse, et peut-être parce que je suis un optimiste, et on peut pas vivre en Israël en étant pessimiste, ça existe pas, c'est pas possible de supporter la pression de ce pays. La question est très bonne et la réponse est très simple. Si vous voyez la Finlande qui était dépendante de Nokia, vous aviez une énorme entreprise qui dominait le secteur. Quand Nokia est tombée, la Finlande était en train de chuter. En Israël, nous sommes dans un environnement très différent. Il y a des gens qui font et qui créent des start-up en permanence. Vous avez 3000 start-up. Quand vous en vendez 30, 300, l'écosystème israélien ne va pas s'effondrer. Au contraire, vous avez des dizaines de millions de dollars, des centaines de millions de dollars qui sont versés par les grands groupes américains pour acheter des start-up israéliennes. Et aujourd'hui, il y a une tendance très lourde en Israël qui n'existait pas. Auparavant, vous êtes le groupe Facebook, vous arrivez en Israël, vous pointez du doigt une entreprise, vous voulez la racheter. Vous allongez 100 millions de dollars. Aujourd'hui, les Israéliens disent « Attends, stop, tu mets l'argent, mais notre équipe de recherche et développement veut rester en Israël. » Donc Waze, racheté par Google pour plus d'un milliard, ce n'est pas du tout par hasard que toutes les équipes de recherche et développement sont en Israël. Mmh. Ça fait partie des éléments clés. Donc, il y a un système de verrouillage pour que la connaissance et le savoir-faire israélien ne partent pas du pays et que l'absorption des start-up ne vide pas de son sens la valeur de l'écosystème israélien.
Qui est une stratégie qui a été mise en place notamment par Avi Yasson, qui est l'expert en chef du ministère de l'économie et de l'industrie israélien, qui est très préoccupé par cette question-là et qui met les choses en place pour justement éviter cette fuite d'une certaine manière. On va s'intéresser à la Russie, si vous voulez bien. Skolkovo, un immense parc technologique situé dans le sud-ouest de Moscou, lancé en 2009 par le président de l'époque, Dmitri Medvedev.
Je voudrais que Skolkovo ne soit pas qu'une bonne marque et je suis certain que nous avons toutes les chances d'y parvenir. Si on parle sérieusement, un taux de 40% de reconnaissance du nom de Skolkovo en Russie, selon le centre d'études de l'opinion publique russe, c'est déjà bien. Mais je voudrais aussi que Skolkovo devienne une idéologie qui joue un grand rôle dans la société russe et qui soit compréhensible pour les personnes âgées et les plus jeunes.
Voilà, l'objectif était de créer, on l'entend à travers le propos de Medvedev, aux portes de la capitale, cette ville entièrement nouvelle, totalement dédiée à la recherche et à l'innovation. On va retrouver Kevin Limonier, qui est maître de conférence à l'Institut français de géopolitique et au département d'études slaves à l'Université Paris 8. On avait prévu, Kevin Limonier, d'investir près de 50 milliards de roubles de subventions fédérales dans les 3 premières années, c'est-à-dire 1,3 milliard d'euros. Et puis surtout, l'État russe espérait attirer des investissements étrangers. Est-ce que justement ces investissements publics de base ont attiré ces fonds privés? Et puis plus généralement, où est-ce qu'on en est de ce projet très concrètement? Est-ce qu'il a avancé?
qu'on peut dire, c'est que par rapport aux investissements de base qui avaient été prévus, le succès n'est pas du tout au rendez-vous pour pas mal de raisons. Hein. Déjà, il faut savoir que la politique de sanctions et les problèmes diplomatiques que connaissent les relations, on va les appeler Est-Ouest, ont impliqué de grandes difficultés, d'une part, et d'autre part, évidemment, la crise économique que connaît la Russie aujourd'hui, notamment avec la baisse du prix des hydrocarbures, pose également un énorme problème de compétitivité et de croissance aux entreprises. Après, il faut relativiser, hein, Skolkovo n'est pas du tout une coquille vide, c'est juste que le projet n'est pas du tout à la hauteur des attentes faramineuses qui avaient été proclamées en fanfare en 2009, à une époque où la Russie était dans une situation économique et géopolitique totalement différente de celle d'aujourd'hui.
Mais est-ce que la crise économique suffit à expliquer cet échec ? Parce que c'est vrai qu'au départ, le projet avait suscité beaucoup d'espoir, en Russie d'abord, mais aussi à l'extérieur, à l'étranger. C'était un programme qu'on pensait de nature à redonner à la Russie sa grandeur en matière d'innovation technologique. Vous écriviez vous-même à l'époque dans Le Monde, la réussite du grand projet de Skolkovo permettrait à la Russie de reconquérir une partie de son identité et de réaliser un projet de puissance hérité des canons du marxisme-léninisme. Aujourd'hui, Skolkovo, ça devient quasiment un sujet de moquerie, en tout cas chez les internautes russes, avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, j'ai vu sur votre blog villefermée.hypothèse.org des photos absolument incroyables, avec beaucoup d'humour bien sûr, mais où on voit par exemple un Medvedev qui tient un énorme boulon comme si c'était un objet incroyablement novateur, un homme qui sert d'une table retournée sur laquelle il a accroché un moteur pour naviguer sur l'eau, on a un nano tramway de l'époque soviétique totalement délabré et abandonné. Pourquoi ce désastre ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Est-ce que c'est pas aussi peut-être des choix politiques qui ont conduit à tout ça ? C'est l'économie, mais pas seulement.
Absolument, il y a la conjoncture économique, mais bien évidemment et surtout une question de réseau politique. Dès le départ, c'est un projet qui a suscité énormément de méfiance de la part de l'opinion publique russe pour une raison assez simple, qui est qu'en Russie, on se méfie souvent des grandes initiatives du pouvoir central de nos jours, dans la mesure où celles-ci peuvent être bien évidemment sujettes à d'énormes affaires de corruption. Et avec Skolkovo, bien évidemment, ça n'a pas loupé. Alors ce qui est intéressant, c'est le calendrier, puisque à partir du moment où Medvedev, président de la fédération à l'époque, lance le projet de Skolkovo, il dit en gros, on va faire table rase du passé et on va construire quelque chose d'entièrement nouveau, comme ça il n'y aura pas de magouille, il n'y aura pas de corruption, tout sera transparent, tout sera clair et on pourra être compétitif sur les marchés mondiaux. Sauf que à partir de 2011-2012, la Russie a connu de grandes manifestations, notamment contre le retour au pouvoir de Vladimir Poutine, et que à partir du moment où Vladimir Poutine revient au pouvoir, comme par hasard, on a énormément d'affaires de corruption qui ont éclaté autour de Skolkovo, ce qui signifie que, à l'origine, nous avions bien évidemment une rivalité extrêmement forte entre les tenants d'un certain libéralisme medvedevien et d'autre part les tenants d'une ligne un peu plus dure représentée bien évidemment par Vladimir Poutine. Et qu'à partir de 2012 et le retour au pouvoir de Vladimir Poutine, il y a un certain ménage qui est fait autour de Skolkovo, autour de cette thématique, notamment pour des raisons politiques et de positionnement de certaines personnalités au moment des manifestations, certaines personnalités qui avaient critiqué Vladimir Poutine et son retour au pouvoir, qui avaient profiter de ces manifestations pour le faire, et donc après son retour au pouvoir, le couperet est bien évidemment tombé.
Mais le ménage, surtout quand il y a des affaires de corruption, ça peut avoir du bon. Alors je ne sais pas du tout si Vladimir Poutine est la bonne personne pour justement mettre un petit peu de transparence et lutter contre la corruption, mais ça c'est un autre sujet. Mais de fait, quand il est redevenu président, visiblement il a coupé des crédits, il a annulé des programmes d'échange, il n'a pas montré en tout cas très clairement l'enthousiasme originel de Medvedev. Alors il faudrait essayer de comprendre pourquoi, et est-ce qu'on peut formuler l'hypothèse, je vous la propose, Kevin Limonier, que finalement, le monde des hautes technologies l'effraie. En tout cas, dire que proposer des espaces de liberté et de création à des jeunes Russes totalement immergés dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça représente pour lui un risque, celui de faire émerger tout un écosystème qui pourrait politiquement le mettre en danger.
Le fait que Vladimir Poutine serait effrayé par les nouvelles technologies, à mon avis, est une hypothèse qui ne va pas assez loin. Dans la mesure où Vladimir Poutine s'est beaucoup investi dès le départ dans la relance du complexe de recherche, notamment des grands secteurs d'excellence hérités de l'Union soviétique, le spatial, le nucléaire, les biotechnologies, l'informatique, etc., etc. Sauf que dès le départ, en fait, Vladimir Poutine a montré, sinon de l'hostilité, du moins d'une grande perplexité à l'égard du du projet Skolkovo, puisqu'il crée de sa propre initiative dans ces années-là un fonds de soutien à l'innovation dans les régions russes qui s'appelle l'Agence des initiatives stratégiques, qui vient en fait voler la vedette de Skolkovo avec des dotations budgétaires qui au départ sont assez minimales mais qui ne font qu'amplifier avec le temps. Et plutôt que de parler de crainte des nouvelles technologies, on peut parler en fait d'une rivalité entre deux conceptions de la science et de l'innovation. Une conception, donc Medvedev, qui elle est très influencée par le branding occidental, une certaine esthétique très Silicon Valley.
Skolkovo, et puis de l'autre côté.
Et de l'autre côté, une autre façon d'envisager la recherche et l'innovation qui, elle, est directement héritée de l'Union soviétique, puisqu'il faut savoir que, hormis Skolkovo, il existe en Russie des dizaines d'anciennes villes, soit fermées, soit secrètes, on les appelle villes fonctionnelles, qui en fait étaient des villes qui, à l'époque soviétique, concentraient la matière grise de l'Union soviétique. Et c'était notamment dans ces villes qu'on développait voilà, les programmes d'armement nucléaire, les ordinateurs soviétiques, les vaisseaux spatiaux, etc. etc. Mmh, mmh. Ces villes-là existent encore aujourd'hui. Il y a encore de la matière grise dans ces villes-là. Et disons que Vladimir Poutine et ses soutiens ont préféré, dès le départ, financer le renouveau de ces territoires-là, pour des raisons bien évidemment très politiques, puisque le renouveau de la puissance russe aujourd'hui, qui est le grand cheval de bataille de Vladimir Poutine, renvoie à un imaginaire de la puissance qui est lui-même hérité de l'Union soviétique. Donc pourquoi faire une espèce de grande ville à l'occidental, une grande Silicon Valley à côté de Moscou, alors que on a partout en Russie ces villes qui ont été fondées dans les années 50, 60, qui sont parfois des centres mondiaux, qui ont connu une très grande excellence dans leur domaine, et sur lesquels il y a déjà une histoire, il y a une identité, il y a une mémoire.
Donc l'État, en tout cas, dans la vision poutinienne de la chose, on a décidé de réinvestir dans ces villes fermées, sauf que ce que vous dites, c'est que paradoxalement, ce qui était ces anciennes enclaves de puissance, et je reprends une formule qui vous appartient, sont en réalité devenues des enclaves de dissidence. On trouve là-bas des Russes très anti-Poutine, alors même que c'est un modèle qui est soutenu par Vladimir Poutine lui-même.
Tout à fait. Alors la population de ces villes a beaucoup changé puisque avec toutes ces aides, des entreprises se sont installées, des jeunes diplômés qui n'ont pas forcément connu l'Union soviétique se sont installés, beaucoup de gens qui ont voyagé à l'étranger, qui ont vu le monde et qui ont envie de garder en fait leur qualité de vie locale. Et on a vu se développer des sortes de protestations qu'on pourrait appeler NIMBY, hein, Not in my backyard, comme on voit en Europe occidentale et aux États-Unis, des contestations par rapport à des projets de spéculation, etc., qui sont devenus en fait des contestations du pouvoir en lui-même.
Merci beaucoup en tout cas Kevin Limonier d'avoir été ce matin avec nous, maître de conférence à l'Institut français de géopolitique et au département d'études slaves à l'Université Paris 8. Un grand merci également à nos deux autres invités qui étaient avec nous en plateau, Daniel Roache et Martine Azuelos. On retrouvera évidemment les références de vos ouvrages sur la page de Culture Monde. Merci infiniment.